Je vais aller un peu vite, donc préparez-vous. J'étais dans un foyer de personnes âgées un jour, j'ai dit, on va prendre la parole, mais on va le prendre en vitesse. J'ai dit, mettez à haute vitesse vos appareils auditifs. On va aller, on va parler. Donc, je vais essayer de parler clair, puis vous donner, parce que j'ai de quoi à vous montrer ce matin concernant la parole de Dieu. On va essayer de regarder trois merveilles. On avait déjà vu quatre merveilles de la parole de Dieu. Je les nomme ça de même parce qu'on avait vu les merveilles de l'inspiration de la parole. C'est une merveille. On avait regardé la merveille de sa formation, comment Dieu a rassemblé la parole de Dieu à travers les années. Puis a mis ensemble pour nous donner le canon de la parole aujourd'hui. Nous avons vu le merveille de sa préservation, comment Dieu a préservé la parole de Dieu à travers le monde, à travers les difficultés, à travers l'ennemi de la parole qui a essayé de brûler, de détruire, de ravager la parole de Dieu. Et on a regardé la semaine passée le merveille du pouvoir de la parole de Dieu. Elle est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Et ce matin, je veux regarder juste pour quelques minutes le merveille de son message. Le merveille de son message. Dans Psaume 19, des versets 7, en fait, dans ma Bible, c'est verset 8 à verset 15. Dans d'autres, nous secondes, c'est parce qu'ils ajoutent au chef des chants, Psaume de David comme verset 1, mais des fois, ils mettent ça au verset 1 avec verset 2, donc c'est pour ça que les numéros sont un peu différents, mais des fois, ça va être des versets 7 pour vous, verset 8 pour moi. La Bible dit, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. J'aime bien ce verset-là. Ça, c'est, pour moi, c'est une bénédiction. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droits. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or. Elles sont plus précieuses que l'or que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit l'instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Amen. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux qui ne dominent point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Ça, c'est un passage formidable. Il y a plusieurs passages dans la parole de Dieu concernant la parole de Dieu. Psaume 119, le chapitre complet parle de la parole de Dieu. Mais Psaume 19, on regarde vraiment le travail et le merveille de son message, ce qu'elle a pour nous aujourd'hui. Notre adoration est toujours dirigée vers le Dieu de la Bible. Amen. Nous magnifions sa parole au-dessus de toute parole. J'aime ce que David a dit au Psaume 138, verset 2. Je me prosternerai vers le temple de ta sainteté et je célébrerai ton nom à cause de ta bonté et à cause de ta vérité, car tu as exalté ta parole au-dessus de tout ton nom. Et j'aime ça, c'est la version Darby que j'ai pris là, la façon que c'est écrit, c'est comme dans mon King James, car tu exaltes ta parole au-dessus de tout ton nom. La parole de Dieu est exaltée, est élevée, magnifiée, parce que c'est la parole de Dieu. C'est ça, c'est son message envers nous. Et moi, ma question que je me pose et je vous pose ce matin, est-ce que nous chérissons la parole comme on voit les hommes et les femmes de la parole ont chéri la parole de Dieu? Est-ce que nous le prenons plus cher pour notre vie? J'espère que oui. Amen. J'espère que oui. Alors, le merveille de son message. J'aime l'illustration que monsieur a donnée avec monsieur Charles Spurgeon. Plusieurs d'entre vous ont entendu parler de Charles Spurgeon. Il était un grand prédicateur du siècle passé. C'était un homme de l'Angleterre à Londres, de Baptist, le tabernacle baptiste à Londres. Quelqu'un a demandé une fois le grand prédicateur Charles Spurgeon s'il était prêt à défendre la parole de Dieu. Et Charles Spurgeon, qui était un prédicateur, il aimait l'Éternel, il a dit ça. À quoi il a répondu? La défendre? Je préfère défendre un lion. Il dit, la parole de Dieu n'a pas besoin d'être défendue. Simplement prêche-la, laisse-la sortir de sa cage, elle se défendra elle-même. Je dis, quel message! Si on laisse sortir la parole de sa cage, on avait vu dans les semaines passées, avant, quand j'étais jeune, la prédication faisait de même. La parole de Dieu dit, aujourd'hui, je pense que. Comprenez-vous, là? Ce n'est plus « Ainsi dit l'Éternel ». Voici le message de nos jours. Je pense que la Bible dit ça. Ou « Je crois ça ». Ce n'est plus « Voici ce que dit la parole de Dieu ». Et qu'est-ce qu'on a en résultat? Dans l'Église, on a les croyants sont pareils. Je crois que quelque chose. C'est mon opinion seulement. Il n'y a pas d'ainsi dit la parole de Dieu. Il n'y a pas de conviction biblique dans leur cœur de l'efficacité et l'importance de la parole de Dieu. J'aime ça. Donc, je dois laisser sortir de la cage la parole. Elle va se défendre toute seule. Le merveille de son message. Je veux vous lire quelque chose que j'ai tapé. Si vous désirez une copie de ça, je peux vous en faire. Ça ne me dérange pas. Mais j'ai appris une chose de la parole de Dieu. De Genèse à Apocalypse, voici le message. Elle donne à Christ la place prééminente. Amen. La Bible donne Christ la place prééminente. Et je vais vous montrer, dans chacun de ce que je vais te donner, il y a un verset biblique. Je n'ai pas mis les versets bibliques à côté, je veux que vous les cherchiez vous-même. Chacun que je vais vous lister ici, dans tous les livres de la Bible, met Christ comme important. Voici le premier. En Genèse, il est la postérité de la femme. En Exode, il est l'agneau pascal. En Lévitique, il est le souverain sacrificateur. En Nombre, il est l'as qui sort de Jacob. En Deutéronome, il est le roc d'où vient la source d'eau vive. En Josué, il est le capitaine de l'armée de l'Éternel. En Juge, il est l'épée de Gédéon. En Ruth, il est celui qui a le droit de rachat. En Samuel, il est la postérité de David. En 1 et 2 rois, il est l'Éternel, Dieu d'Israël. En 1 et 2 chroniques, il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. En Esdras, il est le seigneur du ciel et de la terre. En Néhémie, il est celui qui restaure. On voit ça dans ces jours. En Esther, il est le Dieu de la providence. En Job, il est le juste arbitre. En Somme, il est le roi de la gloire. En Proverbe, il est la sagesse de Dieu. En Ecclésiaste, il est le créateur. En Cantique des Cantiques, il est le bien-aimé, celui qui est plein de charme. Amen. C'est un verset qui dit ça. En Ésaïe, il est le merveilleux conseiller, le Dieu tout-puissant, le Père éternel, le Prince de la paix. En Jérémie, il est le Seigneur juste. En Lamentation, il est le prophète qui pleure. En Ézéchiel, il est la roue qui est dans la roue. En Daniel, il est le quatrième homme dans le feu. En Osée, il est l'Éternel, Dieu des armées. En Joël, il est l'espoir du peuple. En Amos, il est le Dieu des armées. En Abdias, il est celui qui détruit l'orgueilleux. En Jonas, il est le Dieu des deuxièmes chances. J'aime celui-là. En Michée, il est le Dieu de Jacob. En Nahum, il est le Dieu jaloux qui se venge sur ses ennemis. En Habacuc, il est le Dieu glorieux et éternel. En Sophonie, il est le roi d'Israël. En Agée, il est le désir de toutes les nations. En Zacharie, il est celui qui est percé dans la maison de ses proches. En Malachie, il est le Dieu du livre des souvenirs. En Matthieu, il est le Dieu des Juifs. En Marc, il est le serviteur. En Luc, il est le Fils de l'homme. En Jean, il est le Dieu éternel, la parole vivante. En Actes, il est le Seigneur monté au ciel. En Romains, il est le Seigneur notre justice. En Corinthiens, 1 et 2 Corinthiens, il est le tout suffisant. En Galates, il est notre libérateur. En Éphésiens, il est la tête de l'Église. En Philippiens, il est notre force. En Colossiens, il est la plénitude de la divinité. En Thessaloniciens, il est Christ qui revient. En Timothée, il est le médiateur entre Dieu et les hommes. En Tite, il est le grand Dieu et sauveur. En Hébreu, il est le capitaine de notre salut. En Jacques, il est le grand médecin. En Pierre, il est l'agneau sans tache. En Jean, il est l'avocat. 1, 2, 3 Jean. En Jude, il est le Seigneur qui vient avec 10 000 desseins. Et en Apocalypse, il est l'Alpha et l'Oméga, le lion du tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, l'agneau immolé avant la fondation du monde, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, je vais le mettre en français pour vous autres. J'ai dit, de Genèse à Apocalypse, nous voyons le Seigneur dans toute sa personne. Et tu sais quoi? Ben, j'ai dit, excusez, je vais reculer. On ne le voit pas dans toute sa personne parce qu'on va apprendre encore de lui en éternité. Imaginez-vous. On voit juste une, moi, je pense qu'on voit juste un aperçu de qui il est. Et nous, on prend ça pour acquis. On prend ça pour notre livre et on ne le lit même pas. On ne le lit même pas. Pourtant, elle est le message de Jésus-Christ. De son merveilleux salut envers nous. Donc, non seulement qu'on voit le merveille de son message, il y a merveille de ses promesses qui est donnée ce matin. Elle a promis le salut en Jésus-Christ. La Bible a promis le pardon de nos péchés. La Bible a promis la vie éternelle. La Bible a promis le ciel à ceux qui sont sauvés, nés de nouveau. La Bible a promis le retour réel de Christ un jour pour régner. La Bible a promis l'espoir aux désespérés. Ça, c'est notre Bible. Ce n'est pas juste un autre livre qu'on met sur l'étagère pour être oublié, que ça apporte la poussière. La Bible est vivante. La Bible est efficace. La Bible est tranchante. Je dis, la Bible est un lion, parce que c'est la parole du lion du tribu de Juda. Et ça pénètre et ça nous cherche là où nous sommes. Et ça travaille nos âmes. Et ça change et ça transforme nos vies. Mais la seule chose, Dieu ne le fait pas par obligation. Il ne nous frappe pas sur la tête pour dire, changez vos vues, changez vos vues. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mettez sur vous mon joug. Amen. Apprenez de moi. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Ça, c'est le message de la parole de Dieu. Je vous ai donné un chant dans vos feuilles. Amanda, tu peux venir? Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. On va réfléchir sur les paroles. Lorsqu'on pense à ce que Christ a fait pour nous, voilà ce qu'on demande de lui. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Encore, chantons une deuxième fois. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es potier, je suis l'argile. Brise, façonne-moi,
Oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Amen. On va passer un temps de prière. On va aller au trône de la grâce présentement. La Bible dit aussi ensemble, sonde-moi, ô Dieu, vérifie s'il n'y a pas une mauvaise voie dans moi. On règle ces choses. Jusqu'à se consacrer à l'Éternel. Je préfère régler que de laisser les choses de ma communion brisée. Amen. Je préfère régler les choses avec Dieu, restaurer la communion, que laisser les choses brisées. Seigneur, nous venons vers toi ce matin, Seigneur. Je te remercie encore pour le sacrifice de ton Fils sur la croix du calvaire. Seigneur, on voit notre indignité. Seigneur, même cette fin de semaine encore. Car on vient vers toi dans ta présence. Je te remercie pour ton sacrifice sur la croix du calvaire. Seigneur, ce matin, je prie, Seigneur, que notre communion soit agréable à toi. Seigneur, ce qu'on fait soit, Seigneur, pour ton honneur et ta gloire. Que ça soit un temps spécial entre nous et toi ce matin. Merci encore de tes bienfaits. C'est ton précieux. Amen. Je vous demande encore ce matin, comprendre que c'est quoi le pain et la coupe qu'on va prendre. On prend un pain sans levain qui sans levure qui représente le corps pur de notre Seigneur Jésus-Christ. On prend le jus à 100%, il n'y a même pas de sucre à ajouter parce que le sang de Christ est pur. Amen. Il n'y a pas de levure qui représente le péché ni l'un ni l'autre. Et on pense au sang pur de notre Seigneur qui était versé pour nous sur la croix du Calvaire. À notre place, mais on a la coupe, on a le pain, et ça ne devient pas le sang de Christ, et ça ne devient pas le corps, c'est des symboles, c'est des images de ce que Christ a fait pour nous. Et ce matin, on va avoir, dans quelques instants, on va passer la coupe et on va passer le pain. Et je veux que vos têtes soient baissées lorsqu'on passe. Personne, c'est pas le temps de regarder les uns les autres, de juger les uns les autres. La Bible dit qu'on doit s'examiner nous-mêmes. Amen, nos propres cœurs. Si vous êtes baptisé par l'immersion, ça c'est dans les ordonnances qu'on voit dans le Seigneur. Après vous avoir été baptisé et participer au repas du Seigneur. Donc je vais passer avec le pain et la coupe. Puis quand j'arrive, si vous ne voulez pas prendre, juste faites-moi signe, je vais continuer mon chemin. Donc, je veux que vous arrangez les choses avec vous. Amen. Je veux lire 1 Corinthiens 11. La Bible dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Et après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour ça qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et d'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. C'est une histoire spéciale du repas du Seigneur. On va prier pour le pain. Je vais demander à notre frère Yvon de prier pour le pain, de donner le pain qu'on va prendre. Après ça, je vais le passer. Tête baissée lorsqu'un mandat joue doucement. Voilà. Après avoir rendu grâce, le rompier dit, prenez manger, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Faites toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Je vais demander à lui si vous pouvez le prier pour la coupe. Encore les têtes baissées. Même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Amen. cœur de moi. Après avoir fait le repas du Seigneur, c'était une fête de Pâques. Ils ont fait Jésus-Christ avec ses disciples. Et après ça, quand ils ont fini de manger, ils ont chanté un cantique. Amen. Puis après ça, ils sont allés sur le mont d'Olivier. On ne va pas aller là. Après, si vous voulez, vous pouvez aller là après. C'est un peu loin. Ou Mont Carmel. Mais Mont Carmel, c'est ça. C'est là Élie était. Mais on va chanter un cantique pour terminer. On va chanter le numéro. J'ai trop perdu la vache. 45. 45. Pour terminer. Une autre belle cœur. Levons-nous. 45. Oui. On va chanter deux fois. Après ça, ce qu'on va faire, on va se saluer les uns les autres. On va se serrer les uns les autres, les mains. On va se dire. Je vous aime. Est-ce que tu peux me dire ça ce matin, les uns les autres? Même si tu dis dans le fond de mon cœur, je ne l'aime pas. C'est Seigneur, je l'aime dans le Seigneur. Amen. C'est ça qui est plus vital. Quand vous serrez les uns les autres les mains, je vous aime. Ou je t'aime. OK? Voilà. Ton nom, Seigneur Jésus, est admirable. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ton nom surpasse tout autre nom. Rechantons. Ton nom, Seigneur Jésus, est admirable. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ton nom surpasse tout autre nom. Amen. C'est vrai, hein? Ça surpasse tout autre nom. Serrez-vous les uns les autres. Dites-vous vous aimez. Amen. Puis croyez-le de votre cœur. Amen. Si c'est votre épouse, tu peux l'embrasser comme il faut.